Un jour, les disciples de Jésus vont lui dire, mais qui peut être sauvé? Et Jésus va dire, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Amen. Et ce soir, tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible maintenant, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait, ce que nous lisons dans la Bible, il le fait encore aujourd'hui par son Esprit Saint. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles, pour ceux qui en ont, au psaume 116 et au verset 1er, où nous allons lire plusieurs textes ce soir qui nous parlent du bonheur et du malheur. Et dans le psaume 116, notamment, il y avait un homme qui était dans le malheur et le Seigneur lui a fait du bien. Dans le psaume 116, on va lire les 9 premiers versets, il est écrit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. » Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Amen. Cet homme va dire, j'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos. Et si on va dans le psaume 35, quelques pages avant, il nous a aussi parlé de quelqu'un qui est malheureux, mais qui a été délivré. Dans le psaume 35, et au verset 10, c'est David qui parle et il va dire « Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui ? Le malheureux et le pauvre de celui qu'il le dépouille. » Amen. On voit dans ce texte, donc, dans ces deux textes, qu'il y avait deux personnes qui étaient malheureuses. Et dans ce dernier texte que l'on a lu, dans le psaume 35, à un moment, David va dire, il va confesser, « Qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui ?» Donc on voit dans ce texte que David, à un moment de sa vie, était malheureux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. Qui peut délivrer un malheureux de celui qui est plus fort que lui? Pourquoi David était malheureux à ce moment-là? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. Il y avait quelqu'un qui le rendait malheureux. Et s'il était malheureux, c'est parce que quelqu'un d'autre était plus fort que lui. C'est-à-dire qu'il le tenait courbé, qu'il le tenait esclave, qu'il lui faisait du mal. Il y avait plus fort que lui. Et vous savez, la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. C'est-à-dire qu'au final, on est tous au service, on est tous esclaves de celui qui a triomphé de nous-mêmes. C'est dans 2 Pierre chapitre 2, verset 19. Et il y a un autre texte dans l'évangile de Jean où il est dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et la Bible nous dit que ce qui fait le malheur de l'homme, ce qui fait que les hommes sont malheureux, c'est qu'ils sont esclaves de quelqu'un ou même de quelque chose qui est plus fort qu'eux, et ce quelque chose, c'est le péché. Et il suffit de voir, il suffit de regarder dans le monde combien les hommes sont esclaves de passions, combien les hommes sont esclaves de choses qui sont plus fortes qu'eux. Ils aimeraient bien faire le bien, mais ils font pas le bien, ils font le mal. Combien sont esclaves, par exemple, de la pornographie ? Ah, ils aimeraient ne pas le faire, mais c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort. Ils résistent un jour, deux jours, trois jours, un mois, et badaboum. Ils font ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont esclaves. Ils n'ont pas le choix. Combien sont esclaves de l'alcool ? Ils aimeraient ne pas boire, mais dans les faits, ils boivent tout le temps. Ils deviennent violents et ils font des bêtises. Ils sont esclaves. Esclaves. Certains, c'est la drogue. D'autres sont esclaves du vol. Ils aimeraient ne pas voler, mais ils volent. Et quand il y a quelque chose à prendre qui n'est pas à eux et qu'ils peuvent le faire et que personne ne voit, hop, pas vu, pas pris. Esclaves. Certains sont esclaves du mensonge. Ils aimeraient bien dire la vérité, ne pas mentir. Mais dès qu'un moment ils sont en difficulté, dès qu'un moment il y a une situation qui fait que peut-être on va être pas bien, ben on va préférer mentir plutôt que dire la vérité. Ils aimeraient bien dire la vérité, mais ils ne le peuvent pas. Et les faits montrent que quand il y a des situations où on pourrait agir de la bonne manière, on agit de la mauvaise manière. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Je relis ce texte dans le psaume 35. Qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui ? D'autres, c'est la jalousie. C'est plus fort qu'eux. Dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a quelque chose que l'autre a, ou dans les relations de couple, par exemple, certains aimeraient être équilibrés. Le problème, c'est qu'ils sont jaloux. Et ils aimeraient ne pas l'être, mais ils le sont. Et ils font vivre la torture à l'autre, juste parce que dans leur cœur, il y a quelque chose de plus fort qu'eux, la jalousie. Tout ça, c'est des péchés. Ça prend plusieurs formes différentes, mais c'est le péché. D'autres sont esclaves de la colère. Ah, ils aimeraient être calmes. Mais dès que vient quelque chose qui titille, qui pique, explosion. Ah, ils aimeraient ne pas être en colère. Mais il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux, la colère. Le fait de laisser libre cours à la violence qu'il y a dans le cœur. D'autres, c'est la peur. Eh oui, ils aimeraient pouvoir faire les choses, mais ils sont esclaves de la peur. La peur est plus forte. Et au final, quand on pourrait faire certaines choses, on ne va pas les faire parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Je le répète, c'est Jésus qui le dit et c'est la vérité. Chacun est esclave, serviteur de ce qui a triomphé de lui. Et quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et David était malheureux à ce moment-là, dans le psaume 35, parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. Et nous savons aujourd'hui que ce qui rend malheureux les hommes, c'est le péché. C'est le péché. Et ça, on le retrouve dans le Nouveau Testament. Il y a un homme qui va dire à peu près la même chose, qui va parler de sa condition lorsqu'il était esclave du péché, c'est l'apôtre Paul. Et c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Ne le cherchez pas, je vais vous le lire. Il va dire, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu. » C'est-à-dire qu'il voulait faire la loi de Dieu. Il trouvait que la loi de Dieu, ce que Dieu disait, c'était bien. Il voulait faire plaisir. Il trouvait plaisir à ce que Dieu disait. Mais il va dire, « Mais je vois dans mes membres, autrement dit dans mon corps, une loi, c'est-à-dire une force, qui lutte et qui me rend captif du péché qui est dans mes membres. » Et au final, il va dire, « Misérable que je suis. » Qui me délivrera de ce corps de mort ? Un peu plus tôt, il va dire, car je ne fais point ce que je veux, comme un esclave. Vous savez, un esclave, moi si j'ai un esclave qui est dans les chaînes, il veut aller à droite, clac, je tire la chaîne, il vient à gauche. Comprenez ? Un esclave, il ne fait pas ce qu'il veut. Si moi j'ai un esclave, il va faire ce que moi je veux. Il ne va pas faire ce que lui il veut. Celui qui fait ce qu'il veut, c'est un homme libre. Mais un esclave n'a pas le choix. Il ne peut pas. Et même s'il voudrait, il ne peut pas, parce que quelqu'un est plus fort. Si je veux aller à droite et qu'il y a quelqu'un de plus fort qui me force à aller à gauche, j'irai à gauche, même si je veux aller à droite. Parce que je ne peux pas, parce qu'il y a quelque chose de plus fort. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et il va dire que l'origine du problème, ce qui est plus fort que nous, c'est le péché. C'est le péché. Et la Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peut-être que quelqu'un dirait, « Ouais, mais moi je ne suis pas dans ce cas-là. » J'aimerais vous dire que vous êtes un menteur. Parce que la Bible dit la vérité. Et tous les hommes, s'ils sont honnêtes, savent qu'il y a en eux le mal qui est plus fort. Qui est plus fort. Et qu'au final, ça prend du temps, mais petit à petit, il y a ce mal qui nous ronge et qui nous amène à faire ce que l'on ne veut pas et à ne pas réussir à faire ce que l'on veut. Mais à un moment, dans ce texte, Paul va dire, mais grâce soit rendue à Dieu, il va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Misérable que je suis. Il y a une autre version de la Bible qui dit, malheureux que je suis. Il dit la même chose que David. Je suis malheureux, parce qu'il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Qui me délivrera? Eh oui, et là on a la solution. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que nous, comment faire pour en être délivré? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus fort que celui qui est plus fort que nous. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse nous libérer de l'emprise de ce qui est plus fort que nous. En fait, on a besoin de quoi? D'un libérateur. On a besoin de quelqu'un qui nous sauve du péché, de quelqu'un qui vient nous aider là où ce que nous, nous ne pouvons pas faire, lui, il peut le faire. Vous êtes d'accord avec ça? Et il va dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. La version Summer, où c'est traduit d'une manière différente, Paul va dire, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Paul va dire que le moyen d'être sauvé du péché, le moyen d'être délivré de ce qui est plus fort que nous, le péché, c'est pas quelque chose, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ va venir dans le monde, lorsqu'il va être introduit, par exemple, on peut le lire, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 1er, au verset 67. C'est Zacharie qui va être rempli du Saint-Esprit, qui va prophétiser, c'est-à-dire qui va parler de la part de Dieu. Donc au verset 67, Luc chapitre 1er, verset 67, Zacharie, donc le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Il dit la même chose que Paul. « Loué soit Dieu, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David. » Il parle de Jésus. Il va dire « Béni soit Dieu qui nous a suscité, qui a fait venir, qui nous a visité, qui a suscité un puissant sauveur. » Pas juste un sauveur, un puissant sauveur. Quelqu'un qui sauve avec force dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de ceux qui nous haïssent. Amen. Un sauveur qui nous délivre. Oui, il y a quelqu'un de plus fort que nous. Oui, il y a le péché qui est plus fort que nous. Mais il y a un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Et qui que ce soit, ce soir, qui est esclave du péché, peut être délivré. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus qui est venu pour sauver ceux qui sont sous l'empire du péché. Alors vous allez dire, mais comment? Comment? Comment être sauvé du péché? Comment est-ce que Jésus fait pour nous sauver du péché? Ben, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible nous dit aussi que Jésus est mort pour nos péchés. Et qu'à la croix, lorsque Jésus est mort, il est mort pour nos péchés. Dans Ésaïe au chapitre 53, il nous est dit, mais en parlant de Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et si on va dans l'évangile de Matthieu, on va le lire ensemble, au chapitre 27, l'évangile de Matthieu au chapitre 27, il nous est parlé de ce moment où Jésus a été crucifié. On va lire Matthieu chapitre 27 et on va lire à partir du verset 35. Il nous est dit, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Et ils disaient, Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il l'a dit, « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. On voit Jésus-Christ qui est sur la croix. Le Fils de Dieu qui est en train d'agoniser, de mourir sur une croix. Jésus dira que ce n'est pas les hommes qui lui prennent sa vie, mais que c'est lui qui la donne lui-même. À un moment, il dira même que s'il voulait, il pourrait invoquer des légions d'anges qui pourraient venir à son secours. Si Jésus est allé sur la croix, ce n'est pas parce que les hommes l'ont choisi. Si Jésus est allé sur la croix, c'est parce que lui, il l'a choisi de mourir de cette manière-là. Il dira, ce n'est pas les gens qui m'ôtent la vie, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Il avait le pouvoir d'offrir sa vie en sacrifice, ce que nous n'avons pas. Mais en tout cas, lui, il le pouvait. Il pouvait offrir sa vie en sacrifice. Donc, à un moment, il avait le choix, au final, d'être sur la croix ou de ne pas y être. Quand on voit ce qu'un ange peut faire, enfin, quand on voit qu'un ange suffit pour raser, on regarde dans l'Ancien Testament, les anges, ils sont puissants. Hein. Un ange qui passe par un camp ennemi, et puis pouf, il y a des milliers qui sont décédés. Enfin, c'est impressionnant ce que font les anges. Bon, alors imaginez des légions d'anges qui étaient sous son pouvoir. Mais il les a pas appelés. Il est resté sur la croix. Et là, à un moment, les principaux sacrificateurs, ils se moquent de lui. Mais en se moquant de lui, ils ont dit une vérité. Alors eux, ils l'ont dit parce qu'ils ne le croyaient pas. Mais ils ont quand même dit une vérité. Ils vont dire au verset 42, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Et effectivement, pour qu'on soit sauvé, il fallait que quelqu'un soit condamné. Et parce qu'il voulait que nous, on soit sauvés, alors lui, il a accepté de subir la condamnation. Cette parole, elle est réelle. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est pour ça qu'il est resté sur la croix. C'est parce qu'il voulait sauver les autres. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et on voit au final que celui, si nous pouvons être délivrés, c'est parce que lui, il a accepté de subir notre condamnation. À cause du péché, on mérite la mort, on mérite l'enfer. Mais à cause de l'amour de Jésus, c'est lui qui a choisi de prendre sur lui notre condamnation. Et au final, le combat contre le péché, il a été remporté à la croix. Et vous savez, au final, l'amour de Dieu a triomphé du péché de l'homme. Il y avait un coût pour que l'homme soit délivré. La justice de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme a péché, il doit mourir. Mais ce coût, ce prix pour être délivré du péché, c'est Jésus-Christ qui a choisi de le payer lui-même. Il nous est dit que Dieu était en Jésus-Christ à la croix, réconciliant les hommes avec lui-même. Si je peux être sauvé d'un plus fort que moi, c'est parce qu'à la croix, il a été vaincu par Jésus-Christ. Et vous savez, le péché, il ne va pas être vaincu. Il a été vaincu. Ce n'est pas quelque chose qui va venir un jour. C'est quelque chose, c'est une victoire qui a déjà été remportée. Et Jésus-Christ a remporté cette victoire. À un moment, il nous est dit, dans les Philippiens, qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il est descendu du ciel, qu'il a accepté de s'humilier et de se rendre obéissant jusqu'à la mort de la croix. Oui, il est mort pour la croix, mais il nous est dit aussi que 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et par sa résurrection des morts, cela nous prouve, et Dieu prouve, qu'il a agréé le sacrifice de Jésus. Et qu'au final, lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il a dit que tout était accompli, c'est-à-dire que les victoires avaient été remportées, c'est exactement ce qui s'est passé. À un moment, on voit que ce qu'il y a de plus fort que nous, il y a le péché, mais on voit aussi, si on lit des textes dans la Bible, et on ne va pas les lire encore ce soir pour ne pas être trop long, mais que l'homme, il est aussi esclave du diable. Parce que lorsqu'on est sous le péché, bah, celui qui nous manipule derrière, c'est le diable. Eh oui. Vous savez que vous n'êtes pas aimé par une personne, c'est l'ennemi. Et il suffit de regarder le monde. Quand on voit ce que font les hommes, comment ils se détruisent l'un l'autre, c'est vraiment l'œuvre de Satan. Il aime à rendre malheureux les hommes et à ce que les hommes se détruisent les uns les autres. Le diable, il aime à ce qu'il n'y ait plus de repos. Vous savez, quand on regarde un moment, il nous est parlé d'un possédé. Quand on voit comment était le possédé, il était jour et nuit à crier Il n'était pas dans le repos. Vous savez, quand il y a l'ennemi qui intervient, il n'y a plus le repos. Hein. Il se meurtrissait lui-même. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils ne se meurtrissent pas eux-mêmes. Il criait, il était dans la violence. On essayait de l'enchaîner. Et ce n'est pas ce qui se passe dans le monde. On essaye toutes sortes de méthodes pour dominer le péché. Mais clac, il rompait les liens. Plus fort. Personne ne pouvait le maîtriser. Alors on pourrait se dire, ah, il était libre. Mais non, il n'était pas libre. Personne ne pouvait le dominer. Il était esclave. Et c'est que quand Jésus est venu, qu'au final, il a vaincu. Et il nous est dit, c'est dans les Colossiens, qu'à la croix, Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. C'est-à-dire que toute la puissance que l'ennemi pouvait avoir sur les hommes, Jésus-Christ lui a enlevé à la croix. En sorte que ceux qui choisissent de vivre avec Jésus-Christ ne peuvent plus être touchés par l'ennemi. Parce que Jésus-Christ a vaincu. Ben oui, j'étais esclave d'un ennemi, il était plus fort que moi, il y a quelqu'un de plus fort qui vient et qui le bat, et qui le renvoie à vide. Si je reste avec lui, ben il ne pourra plus venir m'embêter. C'est logique. Non, vous êtes d'accord ? Dieu nous délivre. Alors la question, donc on a vu, c'est que Jésus-Christ est plus fort. Il est plus fort que le péché. Il est plus fort que le diable. Il est même plus fort que la mort. Eh oui, il a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu. C'est le puissant sauveur qui est venu nous délivrer. Maintenant, la question est, comment il faut que je fasse moi, maintenant, là, ce soir, pour être délivré ? Puisque Jésus est venu, il a remporté la victoire. Mais moi, peut-être que dans ma vie, je me dis, mais non, je suis pas encore, je le vis pas, ça. Le péché, il est toujours plus fort que moi. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ben vous savez, comme on l'a vu tout à l'heure, chacun est esclave de celui à qui il se libre. Et vous savez, au final, on est esclave de celui à qui on choisit de se livrer. Parce qu'au final, les hommes font un choix. Soit on se livre au péché, soit on se livre à Jésus-Christ. Mais on fait tous un choix. Vous savez, certains disent « Non, non, moi je veux être libre, je veux être esclave de personne. » Mais ça, c'est pas vrai. Si on regarde l'homme est toujours le serviteur de quelqu'un ou de quelque chose. Toujours. L'homme veut que tout... Enfin, c'est un paradoxe. L'homme veut qu'on le serve, mais au final, c'est lui qui sert tout le temps. Quelqu'un. Et au final, la question, c'est qui est-ce que je veux servir ? Elle est là, la question, en réalité. Peut-être que si je suis esclave du péché, c'est parce que j'ai choisi de m'y soumettre. Mais ce soir, Dieu offre la possibilité d'arrêter de se soumettre au péché, mais de choisir de se soumettre à lui et de se mettre à son service. Comment est-ce que je peux être délivré ? Dans le psaume 50, il est écrit, c'est Dieu qui parle, et il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et on l'a lu tout à l'heure dans le psaume 116, plusieurs fois, il va dire « J'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. » Un peu plus loin, il va dire « J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. » Le psalmiste, il a invoqué le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi, invoquer ? Invoquer, c'est appeler à l'aide quelqu'un qui est plus fort que moi. Quand j'invoque l'aide de quelqu'un, c'est que je demande à quelqu'un de plus fort de venir m'aider. C'est un appel au secours, si vous voulez. Hein ? La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses frayeurs. Et au final, pour être délivré, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut demander au Seigneur Jésus son aide. Il faut crier à lui. Alors pas crier avec sa voix, mais crier c'est quoi ? Crier c'est tout simplement se confier en lui. Se confier en l'Éternel. Si on lit le psaume 44, verset 5, voici ce que va dire quelqu'un qui a choisi Dieu. Il va dire « Ô Dieu, tu es mon roi ». C'est-à-dire qu'il a choisi de le servir lui. Il a fait un choix. « Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. » Vous avez vu ? Avec lui, c'est différent. « Ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. En d'autres termes, ce n'est pas mes moyens à moi, ce n'est pas mes méthodes, ce n'est pas ma façon de vivre, ce n'est pas une nouvelle méthode révolutionnaire qui est sortie dans laquelle je vais me confier. Au final, ce n'est pas dans ce que moi je peux faire que je vais me confier. Mais c'est toi qui nous délivres de l'ennemi. Et au final, vous savez, le moyen d'être sauvé, c'est quoi ? C'est la foi. La foi, c'est quoi ? C'est faire confiance. Si j'ai foi en quelqu'un, c'est que je lui fais confiance. Donc la question est, en quoi je vais mettre ma foi ? Est-ce que je vais mettre ma foi dans mes forces, dans mes efforts ? Est-ce que je vais mettre ma foi dans d'autres personnes, dans d'autres hommes ? Parce que si je me confie en eux, ça va aller mieux. Ou est-ce que je vais mettre ma foi, ma confiance, dans ce que Jésus a fait pour moi à la croix ? Et au final, elle est là la clé. Elle est là la clé. Celui qui met sa confiance dans ce que Jésus a fait à la croix, il est délivré. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et au final, ce soir, on a tous un choix. Soit je vais mettre ma confiance dans toutes sortes de choses, et ça ne marchera pas. Soit je mets ma confiance dans ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix, et lorsque je crois qu'il a vaincu le péché, lorsque je crois qu'il a vaincu l'ennemi, lorsque je crois en sa victoire à lui, alors je la vois s'accomplir. Parce que croire, c'est tout simplement se confier, c'est remettre sa vie entre les mains de celui qui a vaincu. Et si ma vie, je la remets entre les mains de Jésus-Christ qui a vaincu, alors je suis délivré. Et lorsqu'on est délivré, on est heureux. Un autre psalmiste dira, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » Eh oui, si on se confie en l'Éternel, on est heureux, parce que c'est lui qui nous délivre. Et que cela puisse plaire à Dieu que ce soir encore, on puisse se confier en l'Éternel et non pas se confier en nous-mêmes. Vous savez, à un moment dans la Bible, il y a cette histoire qui est connue. Vous connaissez l'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath, c'est il y avait une grande armée. C'était l'armée d'Israël qui devait avoir un combat. Et puis, en face de l'armée, bon, il y avait une autre armée. Et puis, il y a un bonhomme qui sort du camp adverse. Mais c'était un homme qui était titanesque. Il faisait plus de 3 mètres de haut. Il avait une armure très très lourde à porter. Il avait un javelot, il avait une épée. Et il faisait peur. C'était un ennemi. Il était fort. Et lorsqu'il sortait, tout le monde était tremblant. Tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde. Il y avait une grosse armée, mais aucun n'osait bouger le petit doigt parce que tous avaient peur de l'ennemi qui était devant lui. Et rien que par sa parole et par ses menaces, il domptait toute une armée. C'était impressionnant. Même le roi adverse avait peur, Saül. C'était un homme impressionnant. Et pendant 40 jours, il ne savait pas quoi faire. Vous savez, des fois, c'est un peu ça notre vie. On a un problème et on ne sait pas quoi faire. Et puis, ça peut durer longtemps. Hein. 40, c'est le chiffre de l'épreuve. 40 jours, un ennemi qui était là, qui se moquait, et vous n'allez pas y arriver, etc., etc. Et puis, un jour, il y a un jeune homme qui passe par là, qui s'appelle David. Et c'était un jeune, et vous savez, David, c'est... Alors des fois, on prend cette image et on se dit, ben voilà, je vais faire... David, c'est moi qui vais... Je dois faire certaines choses et puis je vais vaincre le géant. Mais en réalité, David, c'est l'image de Jésus. Et vous savez, à un moment, ce peuple, il savait pas quoi faire. Et il y a un jeune homme qui avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards, comme Jésus, qui est descendu et qui a remporté la victoire. Et parce que ce jeune homme a remporté la victoire, il a donné la victoire à tout le peuple qui voulait être délivré. Ben c'est exactement ce que Dieu a fait. On était face à un ennemi, personne ne savait quoi faire, et peut-être que vous êtes face à une situation, un Goliath, vous ne savez pas quoi faire. Ben sachez que Jésus-Christ, le fils de David, est descendu sur le champ de bataille. Il s'est fait homme. Il est venu au contact de l'ennemi et à la croix, il a vaincu l'ennemi. Et une fois que l'ennemi a été vaincu, le peuple, a été victorieux parce qu'on lui a donné la victoire. Et bien, c'est exactement ça qui se passe pour le chrétien. Si nous sommes victorieux, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que le Goliath. Si nous sommes victorieux, c'est parce que Goliath a été vaincu. Et le péché, l'homme fort, a été vaincu à la croix, en sorte que je peux être victorieux. Et ce soir, je peux sortir de ce lieu dans la victoire face à le péché qui peut me tenir lié, pas parce que je suis plus fort que le péché, mais parce que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix. Mais je vais faire un choix, le choix de croire en la victoire de Jésus sur le péché, en la victoire de Jésus sur le vol, sur le mensonge, en la victoire de Jésus sur la pornographie, en la victoire de Jésus sur l'alcool, en la victoire de Jésus même sur Satan, et je peux repartir délivré parce qu'il a remporté la victoire. Et tout à l'heure, on a lu « Invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Et pourquoi, après avoir été délivré, on glorifie Dieu ? Parce qu'on ne va pas dire « je suis plus fort », mais on va dire « c'est Jésus qui est plus fort et qui a remporté la victoire ». Et si je me confie en lui, alors je verrai sa victoire s'accomplir dans ma vie, et parce que sa victoire à lui s'accomplit dans ma vie, je le glorifierai. À un moment, un autre psalmiste dira « mais comment rendrai-je en l'Éternel tous les bienfaits qu'il a fait vis-à-vis de moi ?» J'élèverai la coupe des délivrances. C'est-à-dire, je publierai, je dirai que c'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a amené la victoire. Vous êtes d'accord avec ça ? Et bien, ce soir, c'est le temps de la victoire. Elle a déjà été remportée, mais c'est le moment de croire en la victoire qui a déjà été remportée. Et on va courber nos fronts. Et on va demander au Seigneur sa grâce. La Bible est formelle. Dieu dit, invoque-moi. Au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Est-ce que Dieu a promis de faire, il le fait encore ce soir. Qui a besoin d'être délivré? Qui est esclave du péché? Qui est terrorisé par un problème qui est plus grand que lui? Il y a une solution ce soir. Il y a une bonne nouvelle. Jésus a vaincu. La victoire a été remportée. Et le combat qui a mené, ce n'est pas le combat face à cet ennemi, c'est le combat de la foi. C'est envers et contre tout de faire confiance, non pas en ce que je vois, mais en ce que Dieu dit. Non pas en ce que je peux faire, mais en ce que Jésus-Christ, ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, à la croix. Maintenant, je pose simplement la question, qui va choisir de croire? Qui va choisir la victoire de Jésus? En tout cas, celui qui se confie en l'Éternel, celui qui choisit de croire en la victoire de Jésus à la croix, il verra dans sa vie, non pas sa victoire, mais la victoire de Jésus s'accomplir et délivrer. Merci Seigneur Jésus, merci pour la victoire accomplie à la croix. Merci parce que nous étions malheureux dans nos péchés, nous étions tristes parce qu'il y avait le péché qui était plus fort que nous. Et Seigneur, tu as choisi de venir mourir sur cette croix pour nous donner la victoire. Merci parce que tu l'as fait et tu as dit que tout était accompli. Et merci parce que encore ce soir, pour chacun d'entre nous, tout est accompli. La victoire a été remportée. Le triomphe a été possible parce que nous ne pouvions pas, mais toi, tu l'as fait pour nous. Et merci parce que, merci notre Père de nous avoir donné un puissant sauveur en Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu vois ce soir toutes les personnes qui crient à toi dans leur cœur. Toutes les personnes qui choisissent de mettre leur confiance en toi, merci parce que maintenant, Seigneur, tu leur accordes la victoire, tu leur accordes la délivrance sur le péché qui faisait si peur, et qu'au travers de cela, Seigneur, ton nom soit glorifié, et que la gloire te revienne à toi seul, car toi seul es allé sur cette croix et es mort pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.